Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0 dans le magazine. Ce jour, je vais échanger avec Yves Nérol, qui est le secrétaire de l'association des Amis de Roger Vaillant. Et dans quelques jours, se présenteront à Bourg des événements importants autour de cet auteur. Voilà. Bonjour Yves Nérol.
Bonjour. Eh bien, en effet, dans quelques jours, Bourg va retrouver le nom de Vaillant de manière intéressante et importante pour la 24e fois, puisque nous allons présenter nos 24e rencontres Roger Vaillant de Bourg-en-Bresse. Ces rencontres ont commencé en 1995 pour marquer le 30e anniversaire de la mort de Roger Vaillant, qui était mort en 1965. Oui. Et depuis, nous n'avons pas cessé, chaque année, de donner des rendez-vous à des écrivains, à des universitaires, pour échanger justement à propos de tel ou tel thème concernant l'œuvre assez immense de Roger Vaillant et assez diversifiée surtout. Et cette année, pour les 24e rencontres Roger Vaillant, nous avons décidé de nous interroger essentiellement sur une partie de son œuvre qui est en lien bien sûr avec la partie des romans, oui, mais qui s'en distingue, ce sont des essais. Vaillant a été, comme vous le savez peut-être, il a été un brillant journaliste, il a été un polémiste, on parle de lui comme d'un moraliste un petit peu original, très particulier.
Moraliste au sens du XVIIIe siècle.
Ah oui, on précise, oui, bien, vous avez raison de le préciser, hein. Moraliste au sens du XVIIIe siècle, en effet. Et là, donc, on a choisi d'évoquer cet aspect-là de l'œuvre de Roger Vaillant que nous n'avions jamais abordé au cours des précédentes rencontres. Et, il y a un certain nombre d'essais. Dès que Vaillant se met à écrire, il écrit tardivement.
Oui.
Vaillant écrit tardivement, en fait, parce que, comme il le rappelle dans certains de ses textes, il avait une telle idée de l'écriture que... il n'était pas satisfait de ce qu'il produisait, et donc la plupart des choses qu'il a pu écrire au cours des premières années de son âge mûr, après une adolescence assez passionnante aux côtés de jeunes poètes de Reims, oui, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, Vaillant n'a pratiquement pas encore écrit quoi que ce soit. Oui. Et c'est en 1944, lorsque il est obligé de se replier parce qu'il fait partie d'un réseau de résistance, oui, il a été dénoncé, donc il est obligé de se cacher, il vient dans l'Ain, avec des grenades et des pistolets sur sa table, en l'espace de deux mois, un mois et demi, deux mois à peu près, il écrit le premier roman qui va marquer sa carrière de romancier, Drôle de jeu. Nous avons consacré des rencontres sur ce thème-là récemment, donc on ne va pas y revenir.
Où dans l'Ain il a trouvé refuge ?
Alors, dans l'Ain, c'était à Chavannes. Chavannes-sur-Ressouze.
D'accord.
Le Chavannes qui est du côté de la vallée de la Saône.
Oui,
c'est celui-là.
D'accord.
C'est là qu'il s'était réfugié. Il avait loué une maison à l'époque... où il était journaliste. Il était journaliste pour Paris Soir. Et la rédaction de Paris Soir, comme vous le savez, avait été obligée de se replier en juin 40, à partir du moment où l'Allemagne nazie avait décidé de diviser la France en deux parties, la France occupée au nord, dont Paris, et une France libre. Au sud de la Loire et en particulier à Lyon. Donc la rédaction de Paris Soir s'était réfugiée et Vaillant avait suivi sa rédaction. Et depuis Lyon, il avait repéré une petite maison du côté de la Dombe, au pied de la Dombe, pas très loin de la Saône, sur la vallée de la Saône, à Chavannes, sur Ressouze. Oui. Et c'est là qu'en 1944, il revient, parce qu'il y a toujours cette maison possible pour se cacher, en somme, et il fait le manuscrit de Drôle de jeu, qui va paraître à la Libération en 1945 et qui va recevoir le prix Interallié. Ça va donc lancer l'écrivain Roger Vaillant. Mais dès ce moment-là, il se consacre déjà à l'écriture de textes assez courts, assez de réflexions, dans lesquels il fait en quelque sorte le poids de ce qu'il est, de ce qu'il est dans le monde, de ce qu'est le monde devant lui, des interrogations qu'il porte en face d'une société qui est en train de se transformer. Et ça donne donc un premier essai qu'il intitule « De la singularité d'être français ».
Me vient une question en vous écoutant. Puisque j'ai fait un parallèle où je trouve une parenté avec un homme que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle Albert Camus.
Oui, Albert Camus...
Dans leur histoire.
Oui, mais pense qu'ils sont contemporains. Ils sont contemporains, mais ils ne sont pas sur des voies qui les réunissent. Ils sont sur des... Vaillant est sur une voie, j'ai envie de dire, très engagée, mais pas au sens où Camus s'est engagé lui-même. Vaillant va s'engager. Il a rompu depuis très longtemps avec le catholicisme de son enfance. C'est en faisant des mathématiques qu'il indique d'ailleurs qu'il a découvert qu'en fait l'histoire de Dieu, c'est une belle histoire, mais enfin c'est une chose qui n'a pas grand sens à ses yeux. Et il devient un athée conséquent, un libertin. Un libertin, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'esprit libre. C'est la raison qui compte. C'est l'esprit qui résonne, c'est toujours aussi l'héritage du XVIIIe siècle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et la résistance l'amène, le rapproche de plus en plus du courant révolutionnaire qui est porté à l'époque par le Parti communiste français. Ouais. Et donc il se rapproche du Parti communiste français auquel il va adhérer en 1952. Donc... pas mal d'années après, mais c'est ce qui fait que d'ailleurs il se distingue d'un Camus,
d'un Albert Camus,
Camus, parce que Vaillant inscrit son travail, sa pensée, sa réflexion dans un courant marxiste, ce que ne fait pas Camus, bien sûr, et même dans un courant encore plus engagé du point de vue du militant, puisque quand il revient dans l'Ain au début des années 1950, il vit dans un petit village qui est le village des Alimes, au-dessus d'Ambérieu-en-Bugey, et là, il rencontre un certain nombre de militants du Parti communiste français qui sont des travailleurs dans les usines de textiles de la Chape, du côté de Saint-Rambert, de Tenay, etc. Et cela l'amène à participer aux luttes que mènent ces travailleurs. Et cela l'amène, bien sûr, à écrire un autre grand roman qui est Beaumasque, le roman de, justement, du passage de la résistance à quelque chose qui deviendrait révolutionnaire.
Donc il était en lien avec Madame Ullmann Tenant.
Tout à fait. Et Madame Ullmann Tenant était, elle s'occupait du château, du château des Alimes, et c'est son mari Ullmann qui avait trouvé une petite maison pour permettre à Roger Vaillant de quitter. Vaillant avait décidé de quitter les querelles intellectuelles de Paris, etc., le monde parisien, pour s'ancrer davantage sur un territoire. Il avait choisi de nouveau le département de l'Ain. C'est intéressant pour nos auditeurs. C'est intéressant pour nos auditeurs de voir et de réapprendre que Roger Vaillant avait fait la découverte du département de l'Ain au début du deuxième conflit mondial, et lorsqu'il décide de quitter Paris, c'est dans l'Ain qu'il revient et qu'il va d'ailleurs terminer sa vie, oui, puisque c'est à Meillonnard, en 1965, oui. qu'il meurt. Il n'a pas encore 58 ans. On ne peut pas dire que ce soit un vieillard. Il avait encore toute une part de de son œuvre à écrire, et cette part-là, elle est passée aux oubliettes.
Alors, autre question, si vous m'autorisez.
Je vous en prie.
Il avait peut-être une parenté ou un écho avec la philosophe, Simone Veil. Ils se sont rencontrés?
Non, pas du tout.
Puisqu'elle-même avait cette démarche auprès des ouvriers,
du côté
de Saint-Étienne,
la Loire. Mais la démarche de Simone Veil est une démarche, j'ai envie de dire, une démarche très chrétienne.
Ah oui.
C'est une démarche extrêmement chrétienne. Absolument remarquable, tout à fait remarquable, mais vraiment marqué du sceau de l'Église, de l'Église catholique. C'est une très grande catholique, peut-être pas en odeur de sainteté par l'Église catholique elle-même, mais quand même, sa pensée est une pensée religieuse. Alors que la pensée de Roger Vaillant est résolument matérialiste, donc il n'y a pas de possibilité. C'est un petit peu comme avec Camus, si vous voulez. C'est un petit peu comme ça. Et pour poursuivre notre programme, que je rappellerai dans un petit moment, nous allons consacrer deux tables rondes le samedi 17 à l'espace H2M.
17 donc, novembre.
17 novembre, oui, donc dans quelques jours, d'ici 3-4 jours. Deux tables rondes sur deux aspects justement de l'écriture de Vaillant en tant qu'essayiste, c'est-à-dire par rapport à la liberté en amour, par rapport à l'esprit libre, le libertinage, et puis l'autre table ronde, ça sera une table ronde qui sera, elle, axée sur le côté politique.
Oui.
L'implication politique, même si justement le parcours de Vaillant est un parcours il est homogène si on veut, mais il n'est pas rectiligne.
Il n'est pas linéaire.
Voilà, exactement. Il n'est pas linéaire. Il faut comprendre que, en particulier, je vous ai dit qu'il s'est rapproché donc du côté révolutionnaire, et la grande figure, lorsqu'il se lance dans une écriture qu'il veut engager, aussi bien au niveau romanesque qu'au niveau théâtral, la grande figure pour lui, le héros en somme, le héros qui va façonner un monde nouveau, s'appelle Staline. Et ce héros va devoir, de manière tragique, de manière extrêmement grave, le faire descendre de son piédestal en 1956, lorsqu'il lit le rapport Khrouchtchev du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, et qu'il découvre en particulier le côté tyran du personnage, le fait que énormément de personnes ont été assassinées sous son régime, et Vaillant se remet donc complètement en question après avoir d'abord éprouvé une manière de mort en lui-même. Toute l'énergie qu'il mettait à diriger son écriture et à être dans la vie quotidienne aux côtés des travailleurs du département de l'Ain, tout était, et en particulier son grand ami Bourbon, qui avait été député du département, tout était complètement remis en question, annihilé, et il a été tenté, à ce moment-là d'ailleurs, de se supprimer carrément.
Oui, une fracture.
Une véritable fracture.
Un deuil à faire. Est-ce qu'il avait lu, puisque vous faites référence à ces atrocités, donc la Kolyma, à savoir les camps de déportation en Sibérie, il avait lu Chalamov ou des auteurs?
Ils n'étaient pas encore parus.
Ils n'étaient pas encore parus.
Non, ça viendra après.
Après.
Pas oublier, il meurt en 65.
Oui.
Donc, ce dont on parle, sur le génitine, oui, etc., ça vient après. Pour reparler des essais, et du rapport qu'il y a entre l'écriture de roman et l'écriture d'essai, lorsqu'il se remet à écrire, parce qu'il écrit quelque chose à ce moment-là, il écrit une chose extrêmement forte pour lui, écrivain inapte au malheur. À partir de ce moment-là, il ne peut plus se suicider, il ne peut plus se donner la mort. Il faut qu'il reprenne la plume ou le stylo pour justement faire face aux nouvelles contradictions, résoudre la nouvelle dialectique en quelque sorte qu'il entretient avec le monde qui n'est plus le monde qui le portait et qu'il portait en lui depuis le début des années 50. Et avant de revenir directement au roman, il publie en allant chercher un personnage du 18e siècle, un personnage absolument extraordinaire. Faudrait une émission pour pouvoir le présenter.
Pourquoi pas
Absolument. Donc il s'intéresse à ce personnage, le cardinal de Bernis, qui a eu un rôle assez extraordinaire au XVIIIe siècle. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a joué un rôle extrêmement important sous le règne de Louis XV. Et Vaillant dit à la fin. Cet homme de caractère était né 30 ans trop tôt. Trente ans plus tard, il serait devenu révolutionnaire en fonction des raisonnements, de la façon dont il avait choisi de vivre, etc., etc. Et c'est une manière de se dire, il faut, je suis trop en retard ou trop en avance, je ne suis plus en adéquation avec mon temps.
Oui, il y a une lucidité à avoir sur le temps que l'on vit et comment il vient aussi parfois nous parasiter ou que notre pensée n'est pas totalement libre.
Absolument, c'est ça. Ouais. Et lorsqu'il a terminé l'écriture de cet essai, il se lance dans l'écriture du roman La Loi qui va lui apporter le prix Goncourt en 1957. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement, mais ça on n'a pas bien le temps de le voir, c'est la relation, et c'est ce qu'on verra au cours de nos rencontres, la relation qu'il y a du texte de Bernis au texte de la loi.
Ouais,
comment Vaillant passe de l'un à l'autre et continue de porter cette interrogation vis-à-vis des gens qui sont autour de lui, qui sont la société française, qui sont la société du monde. À partir de cette réflexion qu'il est obligé de faire et de reconnaître ce qu'il a appelé le césarisme, ce qui va l'amener à écrire un autre essai quelques années plus tard en relisant les pages de Suétone. Alors quand il relit les pages de Suétone, bien sûr, la grande figure qui est à l'arrière, c'est j'interroge Staline, j'interroge tous les Césars, j'interroge tous les tyrans, et j'interroge le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu est porteur de néant.
Oui,
en quelque sorte.
L'être, il s'interroge sur ces figures de père qu'on avait idolâtrées ou vénérées, et qui, Mao aussi, sont devenus des humains peu fréquentables. Par contre, il a toujours une éthique dans sa philosophie, dans sa réflexion, avec ses mutations, ses ruptures.
Tout à fait.
Grande lucidité.
Exactement. L'important pour lui, c'est justement de ne pas être possédé. De garder cette lucidité. Et c'est ce qui va l'amener d'ailleurs à donner le titre d'un ensemble d'essais les premiers datent de 1946, de la singularité d'être français, c'est 1946, et les derniers, ils sont contemporains au début des années 60. Il rassemble ces essais et il leur donne le titre de « Le regard froid ». C'est-à-dire, en somme, le regard froid, c'est le regard de celui qui ne se laisse pas abuser par une réalité, qui fait intervenir sa réflexion, son analyse, son raisonnement. On en revient aux mathématiques, grâce auxquelles il a réglé la question de Dieu, sans pour autant régler la question complètement du sacré. Oui. Il y a donc toute une part de sacré qu'on va retrouver dans l'érotisme.
Bien évidemment,
justement,
avec bien Bataille.
Mais chez lui aussi, chez Vaillant aussi, retrouvera dans l'érotisme, mais Vaillant. Donc, d'où le libertin, à la fois libertin au niveau de la pensée, mais en même temps libertin au niveau des mœurs. Donc, c'est tout cela qui va émerger de la part des intervenants de nos rencontres le samedi 17, qui sont des écrivains, des universitaires, qui sont des habitués de nos rencontres. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que, comme toutes les associations, vous savez, on a l'impression que à un moment donné, elles se mettent à vieillir, elles ne rassemblent plus que des gens qui ont été les pionniers, et puis petit à petit tout le monde vieillit, on se compte et on enterre les amis, et Dieu sait que l'association des amis de Roger Vaillant ces dernières années n'a pas cessé d'aller dans les cimetières pour enterrer un président, pour enterrer un trésorier, je pense à Jean-Jacques Coltis en particulier, qui était un membre très très important pour la vie de notre association à Bourg-en-Bresse, qui nous a quittés il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Et Ce qui nous conforte aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a de jeunes universitaires qui s'intéressent à Roger Vaillant et qui vont justement, pour la deuxième ou troisième fois, être les invités pour intervenir à l'occasion de ces rencontres.
Donc pour ces rencontres, comment nous y prenons-nous ? À savoir, on vient ou on doit s'inscrire concrètement là. Je suis prosaïque comme Vaillant avec les ouvriers, le monde ouvrier.
Oui, et bien. Concret. Alors c'est très simple. Effectivement, l'entrée est libre. Oui. Nous allons occuper du vendredi après-midi, du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Donc pendant une soirée, une matinée, un après-midi, nous allons occuper la salle Landart d'H2M, l'hôtel Marron de Meillonnac. Les Burgiens ont rebaptisé H2M, ça sonne mieux, c'est plus moderne, paraît-il. Bon. Et les Burgiens sont invités à venir. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, on vient, on entre, l'entrée est libre, etc. Il y a des ouvrages qui sont sur des tables qui permettent aux gens de voir où on en est des éditions que l'association publie depuis 25 ans, à peu près. S'ils le souhaitent, ben ils peuvent adhérer à l'association. Pour une année, c'est 30 euros, qui donne droit d'ailleurs à recevoir le cahier correspondant qui fait le compte-rendu des rencontres de l'année précédente.
D'accord.
Là, nous allons avoir le cahier numéro 36 qui sera présenté à l'occasion de ces 24e rencontres. Mais là, il ne faut pas l'oublier, ce qui est vraiment très important. On va en terminer par là, c'est que l'événement exceptionnel, absolument exceptionnel pour cette année, ça va être la projection dans sa version actuelle d'un film que l'association avait projeté de réaliser en 2015. Oui, en 2015, lorsque nous avons célébré les 50 ans de la mort de Vaillant, nous avions porté ce projet, nous avons appelé les collectivités territoriales, la DRAC, etc., à nous soutenir, à nous aider dans ce projet, faire un film pour pouvoir rencontrer 3 grands témoins qui ont été les amis de Roger Vaillant à des époques différentes, Daniel Cordier, Edgar Morin et Pierre Soulages. Et alors, du projet à la réalisation, il y a eu 3 ans.
Précisez ces hommes importants.
Alors, bien sûr, je vais vous préciser. Donc, Daniel Cordier, je pense que le public burgien le connaît parce que On l'a vu il n'y a pas très longtemps, oui, d'ailleurs, avec le président de la République pour les cérémonies au Mont Valérien. Oui. Hein, mmh. Daniel Cordier accompagnait le président de la République. Daniel Cordier a été le secrétaire de Jean Moulin. Mmh. Et donc, il était à Lyon. Et lorsque Jean Moulin a été capturé, torturé, mis à mort, Daniel Cordier a quitté Lyon, est revenu à Paris et il a été chargé, donc il était le responsable d'un réseau de résistance à Paris. Et ce réseau de résistance avait des ramifications dans toute la France. Et dans ce réseau de résistance, il y avait un certain Roger Vaillant. Donc ils se sont côtoyés, ils se sont rencontrés à ce moment-là. C'est la résistance qui les a fait se rencontrer. Donc nous sommes allés à la rencontre de Daniel Cordier en 2015 et nous l'avons interrogé sur les relations qu'il a eues avec Roger Vaillant. Mmh. Et en particulier sur le fait que Roger Vaillant s'était servi du jeune homme Daniel Cordier pour en faire un personnage de roman. Mmh. Ce personnage de roman qu'on trouve dans Drôle de jeu qui porte le nom de Caracalla.
Voilà. Mmh.
Et Daniel Cordier se souvenant un certain nombre d'années plus tard de cet épisode, de cette relation qu'il a eue avec Vaillant, a donné à son premier volume de souvenirs, le nom de Alias Caracalla. C'est le titre, Alias D'accord. Caracalla. Alors ensuite, Edgar Morin ouais, était étudiant à l'époque à Lyon, au moment où Vaillant s'était replié avec la rédaction de Paris Soir. Edgar Morin était un jeune étudiant, communiste, avec d'autres, etc., très engagé, très furieux du fait du traité germano-soviétique. Oui. Ils étaient très, très furieux de cela, etc., etc. Et ils ont rencontré Roger Vaillant, qui était leur aîné déjà. Et les relations se sont poursuivies après la guerre entre Edgar Morin et Roger Vaillant. Donc ça s'est poursuivi. Quant à Pierre Soulages, Pierre Soulages était un jeune artiste encore complètement méconnu en France. Mmh. Il était connu de quelques amateurs éclairés à Paris. Il a d'ailleurs été plus vite connu en Allemagne et aux États-Unis qu'en France. Mmh. Et en 1947, Roger Vaillant écrit sa première pièce de théâtre, Héloïse et Abélard, toujours le souci de régler des comptes avec l'Église catholique. Ça sera un sujet, là aussi. Et il va carrément chez le jeune Pierre Soulages pour lui dire, s'il vous plaît, lisez ma pièce, j'aimerais que vous en fassiez le décor.
Oui, quelle audace.
Et Pierre Soulages, dans le premier temps, est complètement surpris de cette visite éclair. Et puis, quelques jours après, Pierre Soulages lit cette pièce, ça l'intéresse beaucoup. Et Roger Vaillant repasse, et là, il parle plus longuement, et commence une véritable relation d'amitié et d'admiration entre les deux personnages, qui va durer jusqu'à la mort de Vaillant. Mmh. Celle-ci va durer jusqu'à la mort de Vaillant, puisque peu de temps avant la mort de Vaillant, Pierre Soulages et Vaillant s'étaient rencontrés de nouveau, les Soulages étaient passés à Meillonnat, etc., etc.
Dites-moi, je reviens sur Edgar Morin, puisque me revient en mémoire ses fréquentations assidues auprès de Marguerite Duras, Dionis Mascolo, et toute cette joyeuse et parfois très triste bande d'intellectuels.
Alors, vous faites bien de parler de cela, parce que justement, c'est un petit peu cela que Vaillant avait décidé de quitter à la fin des années 40, lorsqu'il revient dans l'Ain, il met un terme à des relations d'intellectuel à intellectuel,
Commentel, Mascalo,
absolument, c'est ça. Et puis, il est pris par à cette époque-là, il avait déjà, avant la guerre, il était grand reporter.
Oui.
À Paris Soir, il avait le statut de grand reporter. Et lorsque la guerre se termine et qu'il décide de ne plus écrire pour ce qu'il appelait la presse bourgeoise. Mmh. Il écrit pour la Tribune des Nations, pour Libération de l'époque.
Oui.
Et là, il fait de nouveau des grands reportages. Il décrit, par exemple, il suit l'armée de Delattre. En 45, il suit l'armée de Delattre qui passe le Rhin, qui va en direction de l'Allemagne pour mettre fin à la guerre. Mmh. Et à partir de là, Vaillant se lance dans des grands reportages. Il va en faire un très très important au début des années 1950 en Indonésie. Mmh. En Indonésie, où il se passe des choses extrêmement importantes sur le plan politique local, mais aussi sur le plan politique mondial. Donc Vaillant s'efforce d'être présent là où il lui paraît que le cœur de la terre ou que le cœur du monde bat particulièrement fort.
Et donc, il avait-il des liens avec la cause du peuple et notre Sartre national ou international ?
Alors, pas avec la cause du peuple, mais avec Sartre, oui. Et alors là, on va l'évoquer très rapidement parce que le temps va nous manquer. Mais je vous disais tout à l'heure qu'en 1956, la grande crise de Vaillant, c'est l'obligation d'enlever, comme il disait, il a été obligé d'enlever le portrait de Staline au-dessus de son bureau. Ce portrait-là n'avait plus sa place au-dessus de son bureau. Hein. Bon, et vous savez qu'à la fin de l'année 1956, l'armée française, l'armée anglaise, a fait une équipée en Égypte au niveau du canal de Suez. Vous savez aussi que l'armée soviétique a été intervenue en Hongrie. Et donc Jean-Paul Sartre a demandé à Vaillant de signer une pétition d'intellectuels, justement, dénonçant l'invasion de l'Union soviétique en Hongrie, ce que Vaillant a fait, Vaillant, Claude Roy, etc., d'autres, ce qu'ils ont fait. Et ça lui a été bien reproché par le Parti communiste, qu'il a quitté sans faire d'éclat, sans faire de bruit, 2 ou 3 ans plus tard. Et puis, Vaillant a dénoncé en même temps l'équipée franco-britannique à Suez, ce qui a été oublié dans les rapports historiques qui ont été faits depuis. Voilà.
Voilà. Donc, Yves Nérol, merci beaucoup. Donc, votre combat pacifique pour toujours mettre en mémoire et rappeler cet homme assez extraordinaire qu'est Roger Vaillant. Donc, vous pourrez mieux le découvrir, cet homme, le 16 et 17.
Oui, donc dans quelques jours, voilà. Je donne rendez-vous au Burgien dès le 16 à 20h, puisque c'est à ce moment-là que la réalisatrice présentera la version actuelle qui n'est pas encore totalement terminée, mais qui mérite d'être déjà présentée. À 20h, et puis le lendemain, toujours au même endroit, à partir de 10h, je donne rendez-vous au Burgien pour venir assister aux tables rondes sur Vaillant essayiste, merci. Vaillant à l'essai.
Voilà, merci beaucoup, M. Nérol.
Je vous en prie, merci beaucoup pour vous.